Amy Elliott Dune, 21 juillet 2011. Journal. Je suis vraiment trop conne. Parfois, quand je me regarde, je me dis « Pas étonnant que Nick me trouve ridicule, frivole et gâtée comparée à sa mère. » Maureen est en train de mourir. Elle cache sa maladie derrière de grands sourires et d'amples sweatshirts brodés. Répond à toutes les questions sur sa santé en disant « Oh, moi, ça va. Mais et toi, mon chou ?» Elle est en train de mourir, mais elle ne va pas l'avouer, pas encore. Ainsi, hier, elle m'appelle dans la matinée et me demande si ça me tente une sortie avec elle et ses copines. Elle est en forme aujourd'hui. Elle veut sortir de chez elle aussi souvent que possible. Et j'accepte sur le champ, même si je sais qu'elles ne vont rien faire qui m'intéresse particulièrement. Belote, bridge, activité pour l'église, qui consiste généralement à faire du tri. On est là dans 15 minutes, dit-elle. Mets des manches courtes. Du nettoyage. Ça doit être du nettoyage. Une activité qui nécessite de l'huile de coude. Je passe une chemisette et 15 minutes tapante plus tard, j'ouvre la porte à Maureen, chauve sous sa calotte en tricot, qui glousse avec ses deux amies. Elles portent toutes le même t-shirt, couvert de clochettes et de rubans, avec les mots « les plasmes mamas » peints à la bombe en travers de leur poitrine. Je me dis qu'elles ont monté un groupe de doo-wop, mais alors nous montons toutes dans la vieille Chrysler de Rose. Vieille, vieille, avec une banquette avant d'une seule pièce. Une voiture de grand-mère qui sent les cigarettes de dame. Et nous partons joyeusement pour le centre de dons de plasma. C'est ouvert du lundi au jeudi, explique Rose en me regardant dans le rétroviseur. Oh, je fais. Que répondre d'autre ? Ah, c'est super comme jour pour le plasma. On a le droit de donner deux fois par semaine, dit Maureen. Les clochettes de son sweatshirt teintent. La première fois, tu gagnes $20. La seconde, 30. C'est pour ça qu'on est toutes de si bonne humeur aujourd'hui. Tu vas adorer ça, dit Vicky. Tout le monde bavarde tranquillement. On se croirait à l'Institut de beauté. Maureen m'a pressé le bras et a dit tranquillement. Je ne peux plus donner, mais j'ai pensé que tu pourrais le faire pour moi. Ce serait un bon moyen de te faire un peu d'argent de poche. C'est bien pour une fille d'avoir un peu d'argent à elle. J'ai refoulé une brève flambée de colère. Avant, j'avais un peu plus qu'un peu d'argent de poche, mais j'ai tout donné à ton fils. Un homme maigre, en veste en jean étriqué, traîne sur le parking comme un chien errant. À l'intérieur, cependant, c'est propre. Bien éclairé, ça sent le pain. Il y a des posters chrétiens au mur, tout de colombes et de brumes. Mais je sais que je ne peux pas faire ça. Les aiguilles, le sang. Je ne supporte ni les premières, ni le second. Je n'ai pas vraiment d'autres phobies, mais ces deux-là sont indéfectibles. Je suis le genre de fille à m'évanouir pour une petite coupure de rien du tout. Ça doit avoir un rapport avec le fait d'ouvrir la peau, pelée, tranchée, percée. Pendant les séances de chimio de Maureen, je ne regarde jamais quand il plante l'aiguille. « Bonjour, Kélise !» lance Maureen quand nous entrons. Et une grosse femme noire en uniforme vaguement médical répond « Bonjour, Maureen ! Comment tu te sens ?» « Oh, ça va. Mais toi, comment vas-tu ? » ?»« Ça fait combien de temps que vous faites ça ?» je demande. « Un petit moment, » répond Maureen. Kélise est la préférée de tout le monde. Elle ne fait pas du tout mal quand elle pique. Et ça, c'est toujours mieux pour moi, parce que j'ai les veines qui roulent sous la peau. Elle tend son avant-bras avec ses veines bleues et noueuses. Quand j'ai rencontré Mo, elle était grosse, mais plus maintenant. C'est bizarre, mais ça lui va mieux d'être grosse. « Tu as vu ? Essaie d'en coincer une. » Je regarde autour de moi, dans l'espoir que Kélise va nous faire entrer. « Vas-y, essaie. » Je pose un doigt sur une veine et je la sens rouler par en dessous. Une bouffée de chaleur me submerge. « Alors, c'est votre nouvelle recrue ?» demande Kélise soudain à côté de moi. « Maureen n'arrête pas de chanter vos louanges. Il faudrait que vous remplissiez quelques papiers. » Je suis désolée, je ne peux pas. Je ne supporte pas les aiguilles et je ne supporte pas le sang. J'ai une phobie sévère. Je ne peux littéralement pas le faire. Je réalise que je n'ai pas mangé de la journée et une vague de faiblesse m'envahit. Mon cou est sans force. « Tout est très hygiénique ici. Vous êtes en de très bonnes mains, » dit Kélise. « Non, ce n'est pas ça, je vous jure. Je n'ai jamais donné mon sang. Mon médecin me gronde parce que je n'arrive même pas à faire un bilan sanguin une fois par an pour, je ne sais pas, le cholestérol. » Alors nous attendons. Ça prend 2 heures. Vicky et Rose sont reliées à des machines qui produisent un bruit de baratte, comme si on les moissonnait. On leur a même fait une marque sur les doigts pour être sûre qu'elles ne donnent pas plus d'une fois par semaine, où que ce soit. C'est une marque qui se voit sous une lumière mauve. « C'est le côté James Bond, » dit Vicky, et elles se mettent toutes à glousser. Maureen fredonne le thème de James Bond, je crois, et Rose fait semblant de tirer au pistolet avec ses doigts. « Vous pourriez pas la mettre en sourdine, vieille bique, pour une fois ?» lance une femme aux cheveux blancs 4 chaises plus loin. Elle se penche par-dessus les corps inclinés de 3 hommes graisseux. Tatouage bleu-vert sur les bras, barbe de plusieurs jours. Le genre d'homme que j'imaginais bien donner du plasma. Et fait non du doigt avec sa main libre. « Mary ! Je pensais que tu venais demain !»« C'est ce que j'avais prévu, mais mon chèque de chômage n'arrive pas avant une semaine, et je n'avais plus qu'un paquet de céréales et une boîte de crème de maïs. » Elle s'esclave toute, comme si le fait de quasiment mourir de faim était amusant. Elle est trop parfois, cette ville. Tellement désespérée et dans un tel déni. Je commence à me sentir malade. Le son du sang qui baratte. Les longs rubans de sang qui courent des corps aux machines. Les gens qui sont... quoi ? Qui sont exploités comme du bétail. Du sang partout où je regarde. En pleine vue. Là où le sang n'est pas censé se trouver. Épais et foncé. Presque violet. Je me lève pour aller aux toilettes, me passer de l'eau fraîche sur le visage. Je fais 2 pas et mes oreilles se bouchent. Mon champ de vision se rétrécit. Je sens le battement de mon propre cœur, de mon propre sang. Et en tombant, je dis « Oh, pardon !» Je me rappelle à peine le trajet du retour. Maureen me met au lit. Un verre de jus de pomme et un bol de soupe sur la table de chevet. Nous essayons d'appeler Nick. Go dit qu'il n'est pas au bar, et il ne répond pas sur son portable. L'homme disparaît. Il était déjà comme ça quand il était petit. « C'est un chat de gouttière, » dit Maureen. La pire chose qu'on pouvait faire pour le punir, c'était lui interdire de sortir de sa chambre. Elle place une serviette fraîche sur mon front. Son haleine a l'odeur acidulée de l'aspirine. « Ce que t'as à faire, c'est te reposer, ok ?» Je vais continuer d'appeler jusqu'à ce que j'arrive à faire rentrer ce garçon au bercail. Quand Nick rentre, je suis endormie. Je me réveille en l'entendant prendre une douche et je regarde l'heure, 23h04. Il a dû passer au bar après tout. Il aime bien prendre une douche après le service pour se débarrasser de l'odeur de bière et de pop-corn, dit-il. Il se glisse dans le lit et quand je me tourne vers lui, les yeux ouverts, il a l'air consterné de me trouver éveillée. On a essayé de te joindre pendant 10 heures. J'avais plus de batterie. Tu t'es évanouie ? Je croyais que t'avais plus de batterie. Il hésite. Et je sais qu'il s'apprête à mentir. C'est la pire des impressions. Quand il n'y a plus qu'à attendre et à se préparer pour le mensonge. Nick est un mec à l'ancienne. Il a besoin de sa liberté. Il n'aime pas s'expliquer. Il peut savoir qu'il a une sortie prévue avec ses potes 1 semaine à l'avance. Il attendra quand même l'heure qui précède sa partie de poker pour me lâcher nonchalamment. Au fait, je pensais que j'irais rejoindre les copains au poker ce soir, si ça te dérange pas, afin de me laisser jouer le mauvais rôle, si j'avais fait d'autres projets. Personne ne veut être la femme qui empêche son mari de jouer au poker. Personne ne veut être la mégère avec les bigoudis et le rouleau à pâtisserie. Alors on ravale sa déception et on dit d'accord. Je ne pense pas qu'il le fasse par méchanceté. C'est juste qu'il a été élevé comme ça. Son père faisait ce qui lui chantait, toujours, et sa mère encaissait. Jusqu'au jour où elle a divorcé. Il se lance dans son mensonge. Je n'écoute même pas.